Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Vous écoutez Pierre Nantel, Cube Radio.
Le gouvernement Legault a confirmé dimanche que les régions de Montréal, de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches sont passées au palier orange. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a aussi présenté des nouvelles mesures pour prévenir la transmission de la COVID-19 au Québec. On va en parler avec le microbiologiste et président du groupe Eurofins Environex, Marc Hamilton. Bonjour, M. Hamilton.
Oui, bonjour, M. Nantel. Ça va bien?
Ben, ça va bien. Puis, on voulait vous demander si vous êtes inquiet ou si, au contraire, vous avez l'impression que le gouvernement fait bien de rehausser le niveau d'alerte et si c'est suffisant.
Ben écoutez, moi je pense que de rehausser les niveaux d'alerte, moi je dirais pas plus ça, zone orange que le vrai orange, parce qu'il y a quand même moins de restrictions. Là, juste un orangé, vraiment orange brûlé. Mais je dirais que oui, c'est correct d'y aller, parce que ça faut quand même annoncer les cris d'alerte, hein, parce que il faut penser là que le gouvernement est en train de se dire avoir reçu. Donc il sait que très bien. Que, vous vous rappelez, à fin avril l'année passée, cette année, il disait, on va tout couper des services non essentiels, puis là, le confinement est arrivé par après, puis ça, c'était très drastique. Il n'y a pas eu d'échelle, là, ça a été tout ou rien. Donc, lui, il se dit, avant de recommencer le confinement, on va y aller tranquillement. Puis, qu'est-ce que j'ai aimé dans ses décisions hier? C'est qu'il n'a pas appliqué le code orange au complet. Donc, autrement dit, il est allé juste vers, on va couper quelques heures de bar. On va limiter les déplacements, on va couper ça de 10 à 6 personnes dans les maisons. Les regroupements extérieurs ou intérieurs, là, les pique-niques, etc., c'est 25 personnes au lieu de 50. Ça, moi, je trouve que c'est une excellente idée parce qu'on n'a pas confiné autant. Et ça, qu'est-ce qu'il a dit? Puis moi, ce que j'ai mis dans son discours, c'est qu'il fait bien ses devoirs. Dans le sens que dans toutes les personnes qui l'attrapent présentement, là, les 300-400 personnes par jour, et ça depuis quelques semaines, là, il prend le temps de faire une étude épidémiologique des gens qui ont sorti positifs. En leur disant, quand les gens sont appelés, vous avez été, quels ont été vos déplacements, qu'est-ce qui fait en sorte que vous avez attrapé la COVID? Là, ils se rendent compte que c'est des transmissions communautaires, mais il s'est limité qu'à mettre les pourcentages des gens qui l'ont attrapé. Regarde, moi, je suis allé d'un bar, moi, je suis allé d'un rassemblement, moi, je suis allé dans des funérailles, moi, je suis allé dans un party de famille. Et là, il a dit, on voit que c'est là que la transmission communautaire, c'est, on va limiter les déplacements, on va limiter les gens là. Mais tu sais, ce qu'il faut, c'est qu'il n'a pas parlé de sport, il n'a pas parlé de sport de contact, il n'a pas parlé de salle de cinéma. Donc, tu sais, on voit là qu'il va y aller cibler là où est-ce que l'épidémie semble vouloir gagner du terrain. Et c'est ce que je trouve intelligent dans cette décision.
Parce que, évidemment, il y a des gens qui voient une dichotomie entre le fait qu'on peut faire du sport à l'école, mais le sport qu'on appelle le sport civil, lui, il se sent plus menacé. C'est que, précisément, en fonction des épidémiologistes qui font les recherches, on peut identifier le foyer d'éclosion et agir de façon plus chirurgicale.
Ben, c'est exactement ça, la bonne nouvelle. C'est qu'autrement dit, en faisant ces études-là, ils se rendent compte que il n'y a pas eu de cas répertorié parce que le gars était joué au hockey. Il n'y a pas eu de cas répertorié parce que le gars faisait un sport-étude. Donc, il a écarté. Même les gyms, moi, j'avais peur hier qu'ils disent, les gyms, les sports, on les met de côté. Mm-hmm. Ils n'en ont même pas parlé. Fait que ça veut dire que ces gens-là, la transmission communautaire ne se fait pas durant ces activités-là. C'est ça qui est la bonne nouvelle. Puis c'est ça que je trouve bon comparativement à ce printemps où est-ce que ça a été. On coupe tout, on ferme tout.
Mur à mur.
Puis on reste à la maison. Puis même, rappelez-vous bien, là, malgré qu'on ait été confinés le printemps dernier, ça n'a pas empêché les pics d'arriver quand même.
Exact.
On s'entend que même à l'état à la maison, à rien faire, à attendre que le virus passe, il y a quand même eu la vague très haute. On s'en se rappelle, là, le pic est arrivé vers le bout de 27 avril dernier, où est-ce qu'on a atteint le pic et ça a redescendu par après. Mais on était à la maison, hein. Et donc, le virus est dans la communauté. On peut pas vraiment rien faire. Il va être encore dans notre communauté pour longtemps, encore quelques mois. Et il faut vivre avec quand même. Là. C'est juste qu'il faut prendre des décisions intelligentes.
Mais dans ce temps-là, par contre, il y avait quand même tout l'enjeu des CHSLD. qui était là. Et bon, on pense avoir quand même colmaté la brèche au niveau des ressources humaines qui vont être stabilisées par l'arrivée de nouveaux préposés. Est-ce que vous croyez que les résidences privées pour aînés, résidences de personnes âgées, pourraient être le prochain foyer à surveiller?
Ben, moi, je pense qu'il l'est sans arrêt depuis le printemps dernier. Puis je serais très déçu d'apprendre que l'épidémie rentrerait une deuxième fois dans les CHSLD et que ça fasse boule de neige encore comme le printemps dernier. Je serais très déçu considérant tous les efforts et qu'on sait que le virus s'attaque aux personnes âgées et aux personnes les plus affaiblies. Donc, tu sais, il faudrait voir. C'est important d'avoir appris. C'est sûr que on peut pas s'entendre que tous les 100% des CHSLD seront exempts de virus, mais à savoir qu'il y en ait un ici et là versus vraiment une grande communauté de CHSLD attaquée en même temps, j'en douterais. Parce que je serais déçu que ça arriverait.
Monsieur Hamilton, vous avez sûrement remarqué comme moi hier, le ministre et Horacio Arruda ont bien stipulé, c'est pas parce que vous êtes dans une zone qui monte à orange que vous devez vous garrocher pour vous faire tester, suivez les indications de la santé publique. On voudrait pas, parce que le dépistage demeure la clé et demeure aussi la source de beaucoup de problèmes où les gens finalement font la file pendant des heures et des heures. Il y a le dépistage demeure l'outil numéro un.
Ben pour l'instant, c'est là-dessus qu'on se base sur la progression de la maladie. Ce que je trouve dommage présentement, c'est que bon, on a environ 22 000 tests par jour, plus de 20 000 personnes qui étaient échantillonnées tous les jours. Si on fait des statistiques, c'est entre 1 et 1,5 % des résultats qui sortent positifs. Donc, il y a quand même 98 à 99 % des gens qui se font tester et qui ressortent négatifs. Ça, ça veut dire, c'est qu'il y a de la panique dans la société. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont des symptômes non apparentés à la COVID qui décident d'aller se faire tester. Mm-hmm. Et c'est ça qu'il faut éviter. Parce que là, on tombe quand même dans une saison où est-ce que la rhume, la grippe saisonnière, les allergies reviennent. Puis bon, la panique pogne. Hein? Mon enfant, le nez qui coule, il éternue un peu. Vite, c'est la panique. Mais vous savez, là, oui, je comprends que les gens sont curieux de savoir, mais ça crée de la panique. Puis le gouvernement est engorgé. Puis là, on passe aux côtés, bien souvent, les cas qui sont les plus à surveiller. Et là, le problème, c'est que parce qu'on est engorgé, ça prend 6, 7, 8 jours à voir ces résultats. Et là, on est peinard à la maison à attendre ces résultats-là. Et pendant ce temps-là, bon, on recommande pas les gens d'aller travailler. Quand on a suivi un test, rester à la maison, là.
C'est ça.
Faut attendre les résultats. Parce que si dis, mon résultat va arriver dans 5 jours, moi, je resterai pas à la maison, rien faire. Faut éviter ça.
Mais
donc, c'est pour ça. Oui.
Ben, M. Hamilton, j'aimerais juste vous demander, il y a quand même une rumeur, une croyance persistante qui veut que, compte tenu qu'on est très protégé de la COVID-19, on met notre masque, on se lave les mains tout le temps, que si on a des symptômes, ça peut pas vraiment être la grippe ou un autre virus, puisqu'on est très bien protégé. Puis si on a quelque chose, c'est nécessairement la COVID.
Non, mais ça, c'est ce qu'on appelle des rumeurs urbaines. Comment on appelle ça? Des légendes urbaines. Écoutez, que vous attrapez le rhume, que vous attrapez l'influenza, la grippe saisonnière, c'est tout des virus respiratoires et c'est le même mode de transmission. Donc, autrement dit, que dès que vous enlevez votre masque ou que vous soyez dans un endroit où est-ce que les rhumes saisonniers, vous avez autant de risques d'attraper le rhume saisonnier que la COVID. Donc, on le voit par les tests, hein. 98 % des gens qui sont testés, c'est pas la COVID. Donc, ils ont nécessairement d'autres symptômes associés à d'autres types de virus, à d'autres types de pathologies non apparentées. Donc, on voit qu'il n'y a pas seulement ça qu'il y a dans l'air. Il y a des centaines de particules virales venant de toutes sortes de d'autres espèces de virus qui circulent dans l'air qu'on peut attraper aussi.
Monsieur Hamilton, il y a plusieurs mois, vous aviez évoqué que à la mi-octobre, vous seriez pas surpris qu'on atteigne des seuils de 500 à 600 cas par jour. On n'en est pas loin. Comment interprétez-vous cette situation? Est-ce qu'on est dans une courbe ascendante aiguë ou tout est sous contrôle?
Ben moi, je pense qu'elle va continuer à monter. Comme je disais, 500 à 600 à la mi-octobre. Moi, je me suis beaucoup sur les statistiques qu'on a eues de la première vague, de sorte que lorsqu'on a commencé à être stable, puis ce que je dis tient encore la route. Si vous regardez présentement, à fin mars, on a les statistiques d'à peu près du 28 au 29 mars, on avait 400 cas par jour. Et le pic est arrivé comme 3 à 4 semaines plus tard. Donc, on suit encore le même trend. J'espère qu'on ne se rendra pas dans les 8-900 comme on a connu, mais on va se rendre facilement. J'espère pas non plus.
Ben,
à les 5 à 600 d'ici 2-3 semaines, même si même au-delà de tout ce que le gouvernement peut donner comme restriction, moi, je suis pas mal convaincu qu'on va atteindre quand même ce chiffre-là dans les 2-3 prochaines années.
Mais votre éclairage apporte beaucoup pour comprendre tous les efforts faits par le gouvernement, puis c'est assez prometteur au niveau des résultats. En terminant, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui font des rassemblements à l'intérieur. Avez-vous un message à passer aux gens qui se disent « Bon, là, on est supposé être juste 6, mais finalement, on est 15, c'est pas un drame national? »
Ben, écoutez, c'est sûr qu'il y a toujours, on peut toujours, comme on peut faire décortiquer ce message-là, mais l'important, c'est, quand il disait, il n'y a pas plus que 2 familles. Donc, c'est sûr que si vous êtes 2 grosses familles de 6-7 enfants, donc, okay, ça, je peux comprendre, vous allez déborder, mais si vous êtes des cousins, des cousines, des matantes, un ami, puis là, vous êtes rendu à 15 personnes à peu près de foyers différents, ben là, vous allez amener 15 problématiques différentes au même foyer, qui peut être que là, l'éclosion peut commencer. Prenez un exemple. Beaucoup d'éclosions ont commencé dans les salles funéraires. Dans les salles funéraires, c'est de la famille, c'est des amis, puis boum, ça pogne. Les mariages, c'est la même chose. Donc, c'est sûr que si vous faites ça à la maison de la même manière, puis on le sait, quand il y a des funérailles, quand il y a le temps à la maison, puis quand il y a des mariages, bien, on a le goût de se coller, hein. On veut pas, là, il y a de l'émotion là-dedans.
Sûr.
C'est plus fort que nous, et bang. Et une autre chose qu'il faut faire attention aussi, j'écoutais hier à la télé quelque chose d'intéressant à mentionner. C'est parce que considérant que les bars, là, à partir de 11 heures, il y aura plus de boisson. Ben, ils vont fermer, mais je pense que ça, à minuit, puis la boisson arrête à 11 heures.
Oui.
Il y avait des gens qui disaient, hey, moi, quand je sors, moi, à minuit, moi, j'ai pas le goût d'aller me coucher, là. Moi, ce que je vais faire, à minuit, ben, je vais dire à mes gens, hey, venez-vous-en chez nous, on va continuer le party, on va se faire un after hour chez nous, à minuit, soir. Ben, là, faut pas prendre ça de cette manière-là, là. Si le gouvernement dit à 11 heures, il n'y a plus de boisson, puis à minuit, allez-vous-en, c'est pas nécessairement continuer de partir chez vous, là.
C'est ça.
Faut interpréter ça entre les lignes, de dire, il y a un message qui se dit, si vous prenez de la boisson tard le soir, c'est là où est-ce qu'on devient chaleureux, c'est là qu'on a le goût de voir des gens, puis on oublie la COVID.
Exact.
Faut pas tomber dans ce piège-là, là.
Merci beaucoup, M. Hamilton.
Ça fait un grand plaisir.
Merci, à la prochaine. Mark Hamilton, en gros, il y a la loi, puis il y a l'esprit de la loi. Merci.